Le début du mois de septembre est marqué par trois fêtes mariales. Déjà, nous avons vécu la nativité, célébré la nativité de la Vierge Marie, et il était prévu, dès le XVIIe siècle, fondation, au moment de l'institution de la fête du Saint-Nom de Marie, et bien que cette dernière fête soit célébrée dans l'octave de celle de la nativité. Mais après, il y a eu une petite modification qu'il a fixée, et qu'il a fixé au 12 septembre, c'était cette grande bataille, grande victoire de la coalition chrétienne au mur, au pied des murs de Vienne contre les Turcs, qui a empêché eh bien, que l'Europe ne passe alors à l'islam. C'est une grande victoire, et parce que le roi polonais, dont j'ai oublié le nom, pardon, qui la présidait, qui la dirigeait, et eh bien, a invoqué le Saint-Nom de Marie très précisément. Donc, comme aussi la bataille de Leptante, hein, bataille navale celle-là, mais qui, contre toujours les Turcs, cet immense empire à l'époque, qui toujours est lié à une fête mariale, celle du rosaire. Donc ici, c'est le Saint-Nom de Marie. Une fête donc instituée au XVIIe siècle, et Marie, elle est alors invoquée, en tout cas par les chrétiens qui partent au combat, comme la reine du ciel. La reine du ciel. Elle est aussi, bien évidemment, notre mère, ça passe par tous ses attributs, le nom de Marie. Mais ce qui la qualifie le plus, son nom véritable, son nom intime en quelque sorte, c'est d'être l'Immaculée. Ça ne fait aucun doute. C'est là toute la pureté du nom de Marie et toute l'efficacité du nom de Marie pour tous ceux qui l'invoquent. Invoquer le nom de Marie, ça veut dire prier Marie. C'est se mettre sous sa protection et sous son exemple aussi. La Vierge Marie, dans ce sanctuaire, comme dans tous ces sanctuaires, eh bien, est cette reine vers laquelle nous nous tournons, celle qui plus que toute autre créature, eh bien, a impliqué le désir profond de Dieu. C'est la créature que Dieu a voulu le plus au monde, Marie. Parce qu'elle est la mère du Sauveur, bien sûr. Et il l'a sauvée avant tous les autres. Marie, elle nous montre le salut avant même que le Sauveur paraisse publiquement, avant même que le Sauveur ne réalise précisément ce salut. Elle le porte déjà, elle est tout entière, salut de Dieu. C'est ça l'Immaculée. Elle est le signe grandiose que l'Apocalypse nous montre pour nous dire que Jésus arrive, que Dieu arrive dans nos vies. Marie, c'est vraiment l'étoile du matin. Le nom, vous voyez, l'Évangile va bien avec la fête du Saint-Nom de Marie, puisque on parle encore du nom, là. Pour les gens, qui suis-je ? Demande Jésus. C'est-à-dire, quel nom me donne-t-il, en quelque sorte ? Et on remarque aisément eh bien, qu'il lui donne des noms qui ne sont pas les siens, des noms qui ont déjà existé, des noms que d'autres ont portés, fort dignement, d'ailleurs. Mais c'est pas un nom nouveau, c'est un remake en quelque sorte, une répétition. Pour les gens, vous voyez, on tourne en boucle, nous autres les humains, on est incapables de cette grande créativité. Et de toute façon, quand bien même aurait-on été capable en soi de l'imaginer, son attente aurait été inimaginable, que Dieu lui-même vienne en notre monde. Comment imaginer une telle chose ? Alors, comme on ne peut pas imaginer une telle chose, eh bien on met sur la religion des noms déjà traditionnels, des noms déjà connus, c'est-à-dire des attitudes déjà connues, des valeurs déjà connues. Et c'est comme ça qu'on entre et qu'on perd la notion du mystère de la religion chrétienne et de sa grande force. C'est Jésus, eh bien, dépasse tous ces noms, y compris celui de Jean-Baptiste, y compris celui d'Élie ou de n'importe quel autre prophète, fût-ce Moïse. Non, il les dépasse tous. Il n'en répète aucun, parce que tous pointaient du doigt sa venue à lui. Pierre, Eh bien, lui, sous la motion de l'Esprit Saint, est capable de formuler un nom nouveau, le Christ, loin de Dieu. Et en disant cela, il affirme l'unicité du nom de Dieu, du nom de Jésus, quoi, du nom du Christ. Son nom est unique, il n'a pas d'égal. Et il n'y a aucune répétition en lui, il ne vient pas répéter quelque chose. Élie était, cet immense prophète de l'Ancien Testament, était venu remettre sur pied ce que Moïse avait déjà institué. Il venait refaire. Et beaucoup ont passé leur temps à refaire. Mais Jésus, lui, ne refait rien. Il dépasse tout, il crée, il fait toute chose nouvelle. Jésus précise quel est son nom, juste après. Juste après l'exclamation de Pierre, eh bien, il dit « Mon nom, c'est le crucifié. Mon nom, c'est rejet, mort et résurrection. » Ce nom-là, c'est le nom qui dépasse tous les autres. Pour le rassembler en un seul terme, il est le vivant. Oui, il est la source de la vie. Rien ne peut l'anéantir. Et s'il veut mourir ainsi, c'est forcément pour nous donner une leçon, pour notre salut, et surtout pour que nous ne soyons pas écartés de ce salut. Nous devons connaître cette puissance de refus qui est en nous. Marie, elle ne l'a jamais connue, elle n'a jamais ouvert la porte qui lui aurait permis de connaître cette puissance ténébreuse. Nous l'avons à la naissance, nous dit l'Église, par le péché originel. Mystérieusement, ça n'explique pas, elle affirme seulement que nous sommes blessés dès notre naissance. Nous avons une porte entrouverte au péché. Et donc au refus de Dieu. Et ça, c'est quelque chose que nous ne devons jamais cesser de méditer. Il y a en nous cette porte entrouverte que nous n'avons pas conscience d'avoir ouverte. Et d'ailleurs, le Seigneur ne nous en veut pas. Le propre du baptême, c'est de nous restaurer dans la grâce. Totalement, 100%. Mais il y a cette porte entrouverte là qui laisse passer, qui nécessite en tout cas un colmatage permanent par la prière, par le combat spirituel. Marie, elle, non. Elle a vécu quelque chose qui est tellement nouveau, qui est tellement grand. Le nom de Marie, eh bien, c'est celui que nous invoquons, nous autres, à chaque fois que nous avons besoin de maintenir cette porte le plus fermée possible. La croix, c'est le remède contre la mort spirituelle. C'est ce que nous dit le Seigneur dans ce passage. Qui veut sauver sa vie, la perdra. Il faut revenir sur la traduction plus littérale du texte. Qui veut sauver sa vie. Le mot vie ici, c'est en réalité, c'est âme, psyché, l'âme. Qui veut sauver son âme. Alors évidemment, on peut le traduire légitimement par vie, mais quand on le traduit en français par vie, on perd la dimension spirituelle finalement de cette phrase. C'est pas seulement la vie humaine, c'est son quotidien, c'est tout cela, mais c'est plus encore. C'est son âme, ses choix personnels fondamentaux et sa personnalité qui veut sauver son âme. Pourtant, on veut sauver notre peau, mais là, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas sauver sa peau, sauver son âme. Qui veut sauver son âme, le faire avec ses propres forces, lui dicter ses propres valeurs, lui montrer un chemin de salut qui serait la création de chacun d'entre nous, eh bien cela, ça nous conduit à la perdition. C'est notre âme, notre vie, elle est d'abord spirituelle. C'est ce que Jésus veut dire ici. Qui veut sauver son âme, la perdra. Même chose pour le verbe perdre ici. Justement, on perd un peu la saveur du terme grec qui est tuer, détruire. C'est un peu différent de perdre. Celui qui veut sauver son âme, la tue, la détruit. Donc ça implique quelque chose, une action très active, une participation très active de la part de celui qui prétend choisir ses valeurs de vie pour son âme, il tue, il détruit cette âme, il lui tord le cou littéralement. Et ça, il faut forcément être complètement impliqué par ce qu'on fait. La perdre, c'est comme on perd la vie, vous voyez, après un accident. C'est souvent idiot, perdre la vie. Tandis que là, tuer, détruire, c'est tout autre chose, c'est bien plus direct. Ça implique une participation beaucoup plus active. Et c'est ce que Dieu, Jésus, veut faire comprendre à son auditoire. C'est pas seulement à ses disciples, c'est à tout le monde là. Pas seulement les apôtres, les douze, mais tous ceux qui écoutent sa parole. Ne cherchez pas à dominer votre destin. Ça ne veut pas dire ne pas chercher à tirer son aiguille du tas, de la botte de foin, que sais-je, moi, du lot en tout cas, au niveau social, au niveau psychologique, enfin au niveau humain en général. Ce n'est pas pour nous anesthésier que le Seigneur dit ça. Il nous parle de notre âme spirituelle. Il ne faut pas essayer de maîtriser ce qui ne relève que de Dieu, la définition du vrai et du faux, et finalement le destin éternel. Nous sommes, notre vie est d'abord spirituelle. Marie l'a toujours compris dès sa naissance, c'est spontané et intuitif chez elle. La vie, c'est l'âme. Mais pour nous, nous avons un apprentissage qui est très gros à faire pour passer du corps et sa psychologie à l'âme, pour passer de ce monde présent à l'éternité. Marie nous aide beaucoup dès que nous l'invoquons dans ce sens. Elle nous dégage tout de suite de beaucoup de pesanteur, de beaucoup d'attraits qui nous enchaînent à la création plutôt que de nous permettre d'offrir cette création à Dieu. Demandons vraiment à Marie d'être léger, libre comme elle. Parce que débarrassée de tous ses attraits, là finalement, nous sommes libres de tout goûter, de tout saisir à notre guise, parce que nous n'en sommes plus des prisonniers.